26 novembre 1984, deuxième conférence.
Précepte de charité dans saint Thomas. Je crois qu'on n'a pas le temps de voir le reste. Alors, on voit quelques aspects qui sont importants. Question 44. Il nous faut maintenant étudier les préceptes de la charité. Donc d'une façon générale, n'est-ce pas, c'est ce que fait saint Thomas toujours, après avoir étudié chacune des vertus, ce qu'est la vertu en elle-même, il étudie le vice opposé, il étudie le précepte. Et là, on est devant un ordre de théologie morale. Point de vue philosophique, on ne ferait pas ça. Mais c'est intéressant de voir que forcément, au point de vue théologique, il y a les préceptes, puisque Jésus nous a donné le précepte de charité. Et là, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que ça signifie, puisqu'au sens rigoureux, on ne commande pas à quelqu'un d'aimer. On n'allait pas dire à quelqu'un, il faut que tu m'aimes, je te donne le précepte de m'aimer. Ça ne va pas. L'amour est quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus profondément inscrit en nous. Et donc, c'est quelque chose qui est au-delà de ce que représente le précepte. Et c'est là toute la difficulté. Comment peut-il y avoir un précepte d'aimer ? Alors, si évidemment on comprend qu'il s'agit d'amour volontaire, aimer, c'est vouloir aimer, alors on peut comprendre qu'il y a cette volonté d'aimer. Il nous faut maintenant étudier les préceptes de la charité. À ce sujet, nous nous poserons 8 questions. Faut-il donner des préceptes en ce qui concerne la charité ? Y a-t-il un précepte seulement ou bien deux ? Deux préceptes suffisent-ils ? Convient-il de commander que Dieu soit aimé de tout notre cœur ? Convient-il d'ajouter de tout notre esprit ? Ce précepte peut-il être accompli en cette vie ? Le commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », l'ordre de charité tombe-t-il sous le précepte ? Alors d'abord, faut-il donner des préceptes en ce qui concerne la charité ? Première objection. La charité donne le mode aux actes de toutes les vertus qui sont objets de préceptes. Elle est en effet la forme des vertus, nous l'avons vu plus haut. Or, on dit généralement que le mode n'est pas contenu dans le précepte, donc il ne faut pas donner de précepte au sujet de la charité. Alors, la réponse de saint Thomas. Ce que Dieu réclame de nous tombe sous le précepte. In ut deus requirit. Donc tout ce que Dieu réclame, tout ce que Dieu demande tombe sous le précepte. Or Dieu demande à l'homme de l'aimer, comme on le voit dans le Deutéronome, concernant l'amour de charité, qui est l'amour de Dieu, il faut donc donner des préceptes. Ça, simplement, question de fait. De fait, Dieu a donné un précepte de l'aimer. Alors, tout ce que Dieu fait est sage. Il doit donc y avoir une raison que nous devons découvrir. Qu'est-ce que ça signifie pour nous ? Ainsi que nous l'avons vu plus haut, le précepte inclut une notion d'obligation. Alors, voilà le point de vue que saint Thomas rapporte. C'est que le point de vue du précepte comme tel, preceptum in portat, rationem debiti, donc la raison de dû. Donc ça retombe sur le point de vue de la justice, c'est ça qui est très curieux, la raison de dû. C'est le point de vue de la justice. Vous voyez, on comprend très bien que tout ce qui est de l'ordre de la justice tombe sous le précepte. La charité qui est au-delà de la justice, comment tombe-t-elle sous le précepte ? Qu'est-ce que ça veut dire exactement, hein ? Donc, ainsi que nous l'avons vu plus haut, le précepte inclut une raison d'obligation, de dû. Une chose tombe sous le précepte dans la mesure où elle apparaît comme une chose due. Or, une chose est due de deux manières. Ou bien en elle-même, ou bien en raison d'autre chose. En elle-même est obligatoire, en toute affaire, la chose qui est la fin. Car par définition, la fin est le bien poursuivi. Une chose est due de deux manières, ou en elle-même. En elle-même est obligatoire la chose qui est la fin. Puisque c'est à cause d'elle que tout le reste devient obligatoire. En raison d'autre chose, est obligatoire la chose qui est ordonnée à la fin. Ainsi, pour un médecin, ce qui est requis en soi, c'est qu'il donne la guérison. Et ce qui est requis en raison d'autre chose, c'est qu'il donne le remède destiné à la guérison. Or, la fin de la vie spirituelle, c'est que l'homme soit uni à Dieu, ce qui se fait par la charité. À cela s'ordonnent, comme à leur fin, toutes les choses qui appartiennent à la vie spirituelle. C'est pourquoi l'apôtre écrit, dans la première épître à Timothée, « La fin du précepte, c'est la charité, qui naît d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi non feinte. De fait, toutes les vertus dont les actes font l'objet des préceptes sont ordonnées au bien, sont ordonnées ou bien à purifier le cœur du trouble des passions, ce qui est le cas des vertus qui concernent les passions, ou du moins à procurer une bonne conscience, ce qui est le cas des vertus qui concernent l'action, ou à assurer la rectitude de la foi, ce qui est le cas des vertus qui concernent le culte divin. Ces trois choses sont requises pour aimer Dieu, car un cœur impur est détourné de l'amour de Dieu à cause de la passion qui l'incline vers les choses de la terre. Une mauvaise conscience fait prendre en horreur la justice divine par crainte de la peine. Et une foi factice entraîne le cœur vers une divinité factice et la sépare de la vérité de Dieu. Puisque donc, en tout domaine, ce qui est par soi l'emporte sur ce qui est en raison d'autre chose, il s'ensuit que le plus grand commandement a pour objet la charité, ainsi qu'il est dit en saint Matthieu. Vous voyez, c'est assez curieux comme raisonnement. Saint Thomas ne justifie pas, au sens absolu, comment l'amour peut tomber sous le point de vue de la raison de Dieu. Il montre l'importance de la charité, puisque c'est elle qui donne de sens à tout le reste. Et donc, si elle est la chose capitale dans notre vie, il est normal que le plus grand précepte porte sur elle. Donc c'est en raison de l'importance que joue la charité dans notre vie que saint Thomas légitime ce précepte. On va voir dans les réponses aux objections. Donc, première réponse. Ainsi que nous l'avons vu plus haut, lorsqu'il s'agit des préceptes, la façon d'aimer ne tombe pas sous les préceptes qui ont pour objet les autres actes des vertus. Par exemple, sous le précepte « Honore ton père et ta mère », il ne tombe pas que cela ne fasse, se fasse par charité. Toutefois, l'acte de charité se trompe sous des préceptes spéciaux. Ça, c'est une réponse très simple. Montrer que la charité informe toutes les vertus, c'est très vrai. En tant qu'elle informe les vertus, elle ne tombe pas sous le précepte. Mais elle tombe sous le précepte en tant qu'elle a un acte particulier. Et c'est cet acte particulier qui est commandé. Deuxième objection. La charité qui est diffusée dans nos cœurs par l'Esprit Saint nous rend libres. Car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, comme il est dit dans la deuxième épître aux Corinthiens. Or, l'obligation qui naît du précepte s'oppose à la liberté, puisqu'elle impose une nécessité. Il ne faut donc pas donner de précepte de la charité. Réponse. L'obligation qui découle du précepte ne s'oppose à la liberté qu'en celui dont l'esprit est détourné de ce qui fait l'objet du précepte. Ainsi qu'on le voit en ceux-là qui observent les préceptes par seule crainte. Le précepte de la charité ne peut être accompli que par la volonté propre. Aussi ne répugne-t-il pas la liberté. L'amour est source de la liberté. Il n'est pas la liberté comme telle. C'est ça qu'il faut comprendre. Et par le fait même, on peut commander un acte volontaire d'amour et la liberté viendra ensuite. Tandis que le précepte, évidemment, ne porte pas directement sur la liberté. Troisième objection, la charité est la première de toutes les vertus auxquelles sont ordonnés les préceptes. Ainsi qu'il ressort de ce que nous avons vu plus haut. Si donc, pour la charité, étaient donnés quelques préceptes, il faudrait qu'ils fussent compris parmi les préceptes majeurs, qui sont les préceptes du décalogue. Or, il n'en est rien. Il ne faut donc pas donner de préceptes pour la charité. Réponse. Tous les préceptes du décalogue sont ordonnés à l'amour de Dieu et du prochain. C'est pourquoi les préceptes de la charité n'avaient pas à être énumérés parmi les préceptes du décalogue. Ils se trouvent compris en tous. Mais ça n'explique pas le pourquoi du précepte de la charité. On reviendra là-dessus. Alors, article 2. Faut-il donner deux préceptes de la charité ? Je suis obligé d'aller assez vite, hein, parce que c'est... on m'a dit qu'on ne revenait plus sur la charité. Fallait-il donner deux préceptes à la charité ? Les préceptes de la loi. Alors, si vous avez des questions, notez-les au fur et à mesure, puis on y répondra. Les préceptes de la charité sont ordonnés à la vertu. Nous l'avons vu plus haut. Or, la charité constitue une seule vertu, comme il ressort de ce qui précède. Il ne fallait donc donner de la charité qu'un seul précepte. Tu vois la question de l'économie. Hein. Pas la peine de donner deux préceptes, là où un seul suffit. Il est dit dans la première épître de Saint Jean, nous tenons de Dieu ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Comme nous l'avons vu plus haut, lorsqu'il s'est agi des préceptes, les préceptes tiennent dans la loi la même place que les propositions dans les sciences spéculatives. Ça, cette petite analogie est très intéressante. Hoc modo sebent precepta in lege, sicut propositiones in sciences speculativis. En effet, celle-ci, en celle-ci, les conclusions se trouvent virtuellement contenues dans les premiers principes. C'est pourquoi celui qui connaîtrait parfaitement les principes, selon toute leur virtualité, n'aurait pas besoin que les conclusions lui soient proposées séparément. Mais parce que ceux qui connaissent les principes ne les connaissent pas assez pour considérer tout ce qui virtuellement se trouve contenu dans ces principes, il est nécessaire pour eux que dans les sciences, les conclusions soient déduites des principes. Dans le domaine de l'action, où les préceptes de la loi nous dirigent, c'est la fin qui a raison de principe, comme nous l'avons vu plus haut. Or, l'amour de Dieu est la fin à laquelle l'amour du prochain se trouve ordonné. C'est pourquoi il a fallu donner non seulement le précepte de l'amour de Dieu, mais aussi celui de l'amour du prochain, à cause de ceux qui, moins capables, n'apercevraient pas facilement qu'un de ces préceptes est contenu dans l'autre. Très curieux. Il faut faire attention à cet article, il faut bien comprendre l'analogie. Si vous la comprenez matériellement, c'est un petit peu terrible, parce qu'alors, vous voyez, les conclusions ne sont pas les principes. Et il n'y a pas la même intelligibilité dans les conclusions et les principes. Alors, si vous comprenez ça un peu matériellement, vous faites deux commandements, deux amours différents. L'amour de Dieu qui est à la source et l'amour du prochain. Vous voyez ? Alors, on voit très bien sur quoi porte le point de vue. Hein. Le point de vue porte pourquoi de préceptes. Alors, on explique pourquoi de préceptes, parce qu'il y a un ordre entre ces deux amours. Alors, on donne l'analogie pour montrer l'ordre, mais pas plus. Hein, parce que pour tout le reste, c'est faux. Donc, ne prenez pas matériellement l'analogie. Hein. Pour ça, c'est un très bel exemple pour montrer ce qu'est l'analogie. C'est comme les paraboles, hein. Si vous prenez matériellement les paraboles, vous pouvez trouver des contradictions constantes dans ce que dit notre Seigneur. C'est les paraboles des talents et puis la gratuité. On donne à celui qui a, on retire à celui qui n'a pas, le pauvre type. Bienheureux les pauvres, ça ne va pas du tout. Alors, c'est constamment comme ça dans l'Évangile. Constamment. Ça nous oblige une espèce d'intelligence divine, de la sagesse, pour voir chaque fois où porte la lumière divine. C'est vrai. Vous pourriez faire ça à travers toute l'écriture. Vous pourriez montrer constamment que c'est en contradiction. Quand Jésus loue l'intendant, prudent, qui se fait des amis d'iniquité, ouais, appliquer ça matériellement à la vie religieuse, hein. Vous voyez où ça irait. Alors, réponse à la première objection. Si la charité est une seule vertu, elle a cependant deux actes, dont l'un est ordonné à l'autre, comme à sa fin. Voilà. Oui, ça te m'apprécie tout de suite. Si la charité est une seule vertu, donc il n'y a qu'un seul amour, c'est le même, mais il y a deux actes différents. C'est du côté de l'exercice des actes, et pas du côté de la spécification. Du côté de la spécification de l'amour, c'est le même amour. Mais du côté de l'exercice des actes, c'est différent. Alors, du côté de l'exercice des actes, vous avez quelque chose d'analogue avec les propositions, les principes et les conclusions. Et comme le précepte porte non pas sur le caractère spécifique, mais sur l'exercice, alors, c'est pour ça. Et ça, c'est très important parce que c'est ça la clé. Une fois que vous avez compris que le précepte porte sur l'exercice et non pas sur la spécification, vous pouvez comprendre pourquoi il y a un précepte d'amour. Parce que on ne commande pas l'amour, mais on peut commander l'exercice de l'amour. Or, les préceptes ont pour objet les actes des vertus. Or, les préceptes ont pour objet les actes des vertus, c'est pourquoi il a fallu qu'il y ait plusieurs préceptes de charité. c'est l'exercice. Le précepte regarde l'exercice. C'est du côté de l'imperium, hein, le précepte. Il ne faut pas l'oublier. Vous donnez un précepte, c'est l'imperium. C'est un autre qui vous donne un imperium. Si vous n'aviez pas de précepte, votre imperium suffirait. Mais comme votre imperium est fragile, on a besoin d'un précepte. Autrement, on n'aurait pas besoin. C'est à cause du péché qu'on a besoin de la loi et qu'on a besoin des préceptes. Et à cause des préceptes et de la loi, on s'aperçoit qu'on est pécheur, parce qu'on s'aperçoit qu'on est faible. C'est pour ça qu'on n'aime pas beaucoup que quelqu'un nous commande. Parce que quand quelqu'un nous commande, on s'aperçoit qu'on est faible. Oui, de façon générale. Et c'est dans les domaines où on est le plus faible qu'on aime le moins d'être commandé. Ordinairement. Jusqu'au jour où on a compris ce que c'était que l'humilité, et alors on a besoin de la béquille, et on dit, ah, tant mieux, commandez-moi là tout le temps, parce que je suis faible. Parce que notre imperium ne suffit pas. Si notre imperium suffisait, on n'aurait pas besoin. Or, l'imperium, c'est du côté, on le sait bien, c'est du côté de l'exercice. Comme le dit saint Augustin, seconde objection, la charité n'aime que Dieu dans le prochain. Or, nous sommes suffisamment ordonnés à aimer Dieu par ce précepte. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. Il ne fallait donc pas ajouter un autre précepte, celui de la charité envers le prochain. Vous voyez, ça, ils veulent faire le malin, là. Vous voyez bien. Si j'aime Dieu, c'est évident que j'aime le prochain. J'aimerais tout ce que Dieu aime. Réponse. Dieu est aimé dans le prochain comme la fin dans ce qui est ordonné à la fin. Donc il reprend ce qui est donné dans le corps de l'article. Et cependant, il a fallu qu'il y ait des préceptes explicites pour l'un et pour l'autre, pour la raison déjà dite. À cause de notre faiblesse et de notre peu de lumière dans l'amour. Alors on pourrait dire, vous voyez, c'est parce que toujours nous sommes sous le régime de la foi. Et que la charité reste pour nous un mystère auquel nous croyons et n'avons pas l'évidence. Si on voyait ce que c'était que l'amour à l'égard de Dieu, alors on comprendrait. On ne le voit pas. Troisième objection. À des préceptes différents s'opposent des péchés différents. Or, on ne pêche pas si, en laissant de côté l'amour du prochain, on ne laisse pas l'amour de Dieu. Bien plus, il est dit en saint Luc, si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père et sa mère, il ne peut être mon disciple. Et là encore, matériellement, on doit aimer ses parents et puis il faut les haïr. C'est pas commode. Il n'y a donc pas deux préceptes différents, l'un de l'amour de Dieu et l'autre de l'amour du prochain. Réponse. Ce qui est ordonné à la fin a raison de bien par son ordonnance à la fin. De la même façon, et non autrement, s'écarter de la fin a raison de mal. Mais c'est très bref comme réponse. On aimerait que saint Thomas explicite un peu plus. Hein. C'est très bref. Là encore, vous voyez, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Donc, je veux dire, ici, si quelqu'un vient à moi et ne hait pas, on sait très bien que Jésus veut mettre en lumière l'absolu de l'amour qu'on a pour lui. Et que cet amour étant tel, il fait que tous les autres sont relatifs à lui. Passe derrière. Et c'est pour ça qu'il nous dit ça. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait un précepte d'amour à l'égard du prochain, donc à l'égard des parents. Mais il faut les aimer dans la lumière du Christ. Alors, dans la lumière du Christ, nous continuons de les aimer. Et si leur amour s'oppose à l'amour du Christ, alors nous devons les mettre à la place de l'amour second. Oui, ce qui est ordonné à la fin a raison de bien par son ordonnance à la fin. De la même façon, et non autrement, s'écarter de la fin a raison de mal. Donc, aimer trop ses parents et oublier d'aimer, de suivre le Christ, ça, raison de mal. Dernière raison, dernière objection. Dans l'Épître aux Romains, l'apôtre écrit « Celui qui aime son prochain a accompli la loi. » Mais on accomplit la loi qu'en observant tous les préceptes. Tous les préceptes sont donc inclus dans l'amour du prochain. Il ne doit pas y avoir deux commandements de charité. Dans l'amour du prochain, répond saint Thomas, est inclus l'amour de Dieu, comme la fin est incluse dans ce qu'il est ordonné et inversement. Cependant, il a fallu que soit donné explicitement l'un et l'autre précepte pour la raison déjà dite. Tout repose donc, vous voyez, sur la raison qui est dite dans le corps de l'article, et la raison qui est dite dans le corps de l'article, l'analogie des principes et des conclusions, doit nous faire comprendre qu'il y a une difficulté nouvelle dans l'ordre de l'exercice de la charité fraternelle, et par le fait même, il est nécessaire qu'il y ait un nouveau précepte. Parce que nous ne comprenons pas suffisamment comment l'amour du prochain est impliqué dans l'amour de Dieu. Parce que notre amour à l'égard de Dieu n'est pas évident. Il ne s'impose pas à nous avec évidence, en toute lumière. Alors, article 3, les deux préceptes de la charité suffisent-ils ? Il semble que non. Les préceptes, en effet, portent sur les actes des vertus. Or, les actes distinguent selon les objets. Comme il se trouve que l'on doit aimer de charité quatre objets, à savoir Dieu, soi-même, le prochain et son propre corps, ainsi qu'on l'a vu, ainsi il ressort de ce que nous avons vu plus haut. Il semble qu'il doit y avoir quatre préceptes de charité. Par suite, deux préceptes ne suffisent point. Oui, il faut instituer un ordre dans lequel il y a quatre préceptes de charité. N'est-ce pas ? Alors on voit très bien, comme ça on explicite un peu plus. Saint Thomas répond, le Seigneur a dit en saint Matthieu, c'est sur ces deux préceptes que reposent toute la loi et les prophètes. La charité, nous l'avons vu plus haut, est une amitié. Or, l'amitié s'adresse à un autre. C'est pourquoi saint Grégoire dit, dans une de ses homélies, la charité ne peut exister à moins que l'on ne soit deux. À savoir, comment l'on peut s'aimer soi-même de charité, nous l'avons vu plus haut. Comme par ailleurs, la dilection et l'amour ont pour objet le bien, et que le bien n'est autre que la fin, ou ce qui est ordonné à la fin. Il convient qu'il n'y ait que deux préceptes pour la charité. L'un pour lequel nous sommes amenés à aimer Dieu comme fin, l'autre par lequel nous sommes amenés à aimer le prochain à cause de Dieu, c'est-à-dire à cause de la fin. On voit bien, à ce point de vue-là, c'est très simple. Le précepte de charité à l'égard de l'autre, vous voyez, va inclure tout ce qui est ordonné à la fin. Alors, voyons la réponse aux quatre préceptes. Selon saint Augustin, sur les quatre choses qu'il faut aimer de charité, il n'y avait pas à donner de préceptes pour la seconde, la quatrième, savoir l'amour de soi et l'amour de son propre corps. Car l'homme peut s'écarter de la vérité autant qu'on voudra. Il lui restera toujours l'amour de soi et son propre corps. Ça, c'est du saint Augustin. Merveilleux, extraordinaire. C'est la manière d'aimer qui devait être commandée à l'homme. Modus autem diligendi, precipiendus est homini. Afin qu'il s'aime lui-même et aime son propre corps de façon ordonnée. Cela a lieu par le fait qu'il aime Dieu et le prochain. Vous voyez, l'amour de soi est ordonné à Dieu, l'amour de notre corps est ordonné au prochain. Et donc, par l'amour de Dieu et l'amour du prochain, tout est bien ordonné. C'est l'ordo caritatis qu'il fallait sauver dans le double précepte. Alors voyons, deuxième objection. L'acte de charité n'est pas seulement amour, mais aussi joie, paix et bienfaisance. Or, il doit y avoir précepte pour tout acte vertueux. Deux préceptes pour la charité ne suffisent donc pas. Il y a un précepte pour la joie. Il y a un précepte pour la paix. Réponse. Tous les actes de la charité font suite à l'acte de dilection, comme l'effet à sa cause. Ainsi qu'il ressort de ce que nous avons vu plus haut. C'est pourquoi, dans les préceptes concernant la dilection ou l'amour, se trouvent virtuellement contenus les préceptes concernant les autres actes. Pourtant, à l'intention de ceux qui sont plus lents à comprendre ce que nous sommes, nous trouvons pour chacun de ces actes des préceptes explicitement donnés pour la joie dans l'Épître aux Philippiens. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Pour la paix, à la fin de l'Épître aux Hébreux, recherchez la paix avec tous. Pour la bienfaisance, à la fin de l'Épître aux Galates, pendant que nous en avons le temps, faisons du bien à tous. Pour chacune des parties de la bienfaisance, nous trouvons des préceptes qui sont donnés dans la Sainte Écriture, comme le voient ceux qui la lisent avec attention. Alors, dernière objection, ça c'est facile à comprendre. Vous voyez, ce n'est pas des préceptes au sens éminent, c'est plutôt des applications du même précepte. Ce précepte de la joie, ce précepte de la paix, c'est la conséquence de l'amour. Alors, ce n'est pas dit avec autant de force que le précepte d'aimer, et c'est comme une application, ce qu'on appellerait une spiritualité. Troisième objection, s'il appartient à la vertu d'accomplir le bien, il lui appartient aussi d'éviter le mal. Or, nous sommes amenés à faire le bien par les préceptes affirmatifs et à éviter le mal par les préceptes négatifs. Il lui donc fallut que soit donné pour la charité, non seulement des préceptes affirmatifs, mais aussi des préceptes négatifs. Les deux préceptes de la charité que nous avons cités ne suffisent pas. Réponse. Faire le bien est plus qu'éviter le mal. C'est pourquoi, dans les préceptes affirmatifs, sont virtuellement contenus les préceptes négatifs. On trouve cependant explicitement donné des préceptes contre les vices opposés à la charité. Contre la haine, par exemple, dans le Lévitique, tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Contre l'assédie, dans l'Ecclésiaste, tu ne prendras point ses biens en dégoût. Contre l'envie, dans l'Épître aux Galates, ne cherchons pas la vaine gloire, pas de provocation entre elles, entre nous pas de jalousie. Contre la discorde, dans la première épître aux Corinthiens, ayez tous même sentiment, qu'il n'y ait point parmi vous de division. Contre le scandale, dans l'épître aux Romains, ne soyez pas pour votre frère une occasion de chute ou de scandale. On retrouve exactement la même chose. C'est la même raison. Saint Thomas montre là la force du précepte de l'amour et tout le rayonnement de ce précepte d'amour. C'est bien la théologie scientifique, ça. Et c'est très beau comme effort de théologie scientifique de voir le point central et toutes les autres choses qui en dépendent. Donc, ce n'est pas la peine de les traiter. Ils sont impliqués dedans. Ce qui montre bien, vous voyez, que la théologie scientifique demande de s'achever dans une théologie mystique dans laquelle ces aspects seraient plus développés. Ou dans une théologie spirituelle dans laquelle ces aspects seraient développés. Ils ont besoin d'être développés. Ils ne sont pas développés en théologie scientifique, parce qu'en théologie scientifique, on ne traite qu'un aspect. Ce qui commande l'ordre par rapport à tous les autres, c'est-à-dire le principe. Article 4. Convient-il de commander d'aimer Dieu de tout son cœur? Le mode de l'acte vertueux n'est pas contenu dans le précepte, ainsi qu'il ressort de ce qui précède. Or, lorsqu'on dit de tout notre cœur, on exprime le mode de notre amour pour Dieu. Il ne convient donc pas de commander d'aimer Dieu de tout son cœur. Là aussi, c'est un effort de théologie scientifique très très net. Nous lisons dans le Deutéronome, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Les préceptes, ayant pour objet les actes des vertus, un acte tombe sous le précepte pour autant qu'il est un acte de vertu. De plus, il est demandé à tout acte de vertu, non seulement de porter sur la matière voulue, mais encore d'être revêtu des circonstances qui le proportionnent à cette matière. Or, Dieu doit être aimé comme la fin ultime à laquelle toutes choses doivent être rapportées. Aussi, fallait-il marquer une certaine totalité dans le commandement de l'amour de Dieu. Oui. Vous allez tout de suite voir la réponse, alors, au mode. Sous le précepte qui a pour objet l'acte d'une vertu, ne tombe point le mode que cet acte reçoit d'une vertu supérieure, mais le mode qui appartient à l'essence même de la vertu tombe sous le précepte. Cadit tamen sub precepto, modus ille qui pertinet ad rationem propriae virtutis, qui appartient à la raison même de la vertu, tombe sous le précepte. C'est un tel mode que désigne l'expression de tout son cœur. Ça, c'est intéressant à bien noter. L'amour qu'on a pour Dieu ne peut être qu'un amour total de tout notre cœur. Autrement, c'est plus l'amour de Dieu. Vous ne pouvez pas aimer Dieu avec partage, vous voyez. Parce que Dieu est la fin ultime. Ce n'est pas un mode, ce n'est pas facultatif. Non. Ça fait partie essentielle de l'amour. Alors le mode ne tombe pas sous le précepte. C'est l'acte même de la vertu qui tombe sous le précepte. Et aimer Dieu de tout son cœur fait partie de l'acte même de la charité. De la ratio caritatis. Alors, deuxième objection. Le tout est le parfait. Et ce à quoi il ne manque rien, d'après les physiques d'Aristote. Si donc il tombe sous le précepte que Dieu soit aimé de tout cœur, quiconque fait quelque chose qui n'appartienne pas à l'amour de Dieu agit contre le précepte, et par conséquent commet un péché mortel. C'est le cas du péché mortel, qui ne relève pas de l'amour de Dieu. Le péché véniel sera donc mortel. Conclusion inadmissible. On peut aimer Dieu de tout son cœur en deux sens. C'est pas de la casuistique. Dupliciter contigit ex toto corde Deus illiduere. Premièrement, en acte. C'est-à-dire que le cœur de l'homme se porte tout entier et d'une manière toujours actuelle vers Dieu. Telle est la perfection de la patrie céleste. Secondement, le cœur de l'homme est porté tout entier vers Dieu au niveau de l'habitus, de telle sorte qu'il n'accepte rien de contraire à l'amour de Dieu. Telle est la perfection de la voie ou du pèlerin. À cela, le péché véniel n'est pas contraire. Il ne supprime pas l'habitude de charité, puisqu'il ne se porte pas vers l'objet opposé. Il empêche seulement l'usage de cet habitus. Oui, ça c'est aussi très important. pour le perfectionnisme. N'est-ce pas ? J'ai jamais oublié ça. Ce que saint Thomas demande, c'est admettre notre pauvreté, ça. Notre précarité de la terre. Il ne faut pas vouloir, sur terre, réaliser ce qui est propre à la patrie. Ce qui est propre à la patrie, c'est d'aimer de tout son cœur, tout le temps. Vous voyez, tel est le précepte de la patrie céleste, telle est la perfection de la patrie céleste. Que le cœur de l'homme se porte tout entier et d'une manière toujours actuelle vers Dieu. On tend à actuer le plus qu'on peut, mais on sait qu'on ne peut pas actuer tout le temps. Et on l'accepte humblement. Ça fait partie de la situation dans laquelle on est. Vous voyez, c'est propre novice de ne pas l'accepter. Et c'est en ce sens-là qu'il se tend. Vous voyez, c'est propre à la ferveur du vieux moine de l'accepter humblement, gardant la ferveur. C'est ça qui est très important. On garde la ferveur tout en acceptant que c'est vrai, on ne peut pas porter tout le temps, notre amour ne peut pas se porter tout le temps de la même façon vers Dieu. Alors, habitualitaire, comprenons bien, parce qu'il y a une façon de se tourner les pouces hein, en disant, j'aime Dieu habituellement, j'ai la charité. Donc, tout est fait habituellement pour Dieu. C'est bien évident. Habitualitaire demande l'actuation le plus fréquent possible. Mais pas toujours. Vous voyez ? Là, il y a de la modèle, il y a quelque chose à bien comprendre. La prudence éclairée par la charité. Alors, troisième objection, aimer Dieu de tout son cœur relève de la perfection, car selon le philosophe, le tout et le parfait sont une même chose. Or, ce qui relève de la perfection ne tombe pas sous le précepte, mais sous le conseil. Il ne faut donc pas commander d'aimer Dieu de tout son cœur. Alors, cette perfection de la charité à quoi est ordonnée les conseils occupe une position moyenne entre les deux perfections susdites. Elle signifie que l'homme, autant que cela est possible, se détache des choses temporelles, même licites, dont le souci entrave le mouvement actuel du cœur vers Dieu. Donc entre les deux aspects précédents, vous voyez bien, il y a l'attitude des conseils qui nous demande de tout faire pour actuer le plus possible notre amour. Alors, article 5. À ces mots, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Convenait-il d'ajouter de toute ton âme et de toute ta force? Le cœur ne signifie pas ici l'organe corporel, car aimer Dieu n'est pas un acte du corps. Il faut donc que le cœur soit pris dans son sens spirituel. Or, le cœur au sens spirituel désigne ou bien l'âme elle-même, ou quelque chose de l'âme. Il est donc superflu de mentionner cœur et âme. Alors, le sept contrat est auctoritas scriptum. Cet homme donne sa langue au chat. Auctoritas. L'écriture le dit, c'est très bien. Pas besoin d'autre chose. C'est merveilleux. Alors, on va l'expliquer. Ce commandement de l'écriture, ce commandement a été transmis de façon différente en divers endroits. C'est ainsi que dans le Deutéronome se trouvent les trois expressions de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. En saint Matthieu se trouvent deux d'entre elles, de tout ton cœur, de toute ton âme, on nomme de toute ta force. Et par contre, on ajoute de tout ton esprit. En saint Marc, il y a quatre expressions, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta vertu. Ce qui équivaut de toute ta force. Ces quatre expressions se retrouvent encore en Saint-Luc. où, toutefois, au lieu de force ou vertu, il y a de toutes tes forces. Il faut donc assigner une raison à ces quatre expressions. Car si l'une d'entre elles manque, ici ou là, c'est qu'elle se déduit des autres. Il y a lieu de considérer que l'amour est un acte de volonté désigné ici par le cœur. En effet, de même que le cœur, organe corporel, est le principe de tous les mouvements du corps, de même la volonté principalement dans son orientation vers la fin ultime, qui est l'objet de la charité, et le principe de tous les mouvements spirituels. Or, il y a trois principes d'action soumis à la motion de la volonté. L'intelligence, désignée par esprit. La puissance appétitive inférieure, désignée par l'âme. La puissance extérieure d'exécution, désignée par la force. La vertu ou les forces. Il nous est donc commandé que toute notre intention se porte vers Dieu, ce qu'exprime de tout cœur, que toute notre intelligence soit soumise à Dieu, ce qui s'exprime de tout ton esprit, que tout notre appétit